Radio Spirale.
Souffle du Norrois présente aujourd'hui une lecture des parutions récentes de Corinne Larochelle et Monique Dolan, précédée d'une lecture en forme d'hommage à trois grandes voix de la poésie québécoise, Rina Lanier, Michel Beaulieu et Paul-Chanel Malenfant. Jocelyne Felks, Denise Brassard et Paul Bélanger prêteront ainsi leur voix. La lecture se déroulait à la librairie Olivieri en novembre 2011.
Bienvenue à la librairie Olivieri pour cette lecture des éditions du Norrois. Merci à la librairie Olivieri qui nous accueille encore dans son espace de librairie pour cette lecture. Alors ce soir, c'est une soirée un peu particulière puisque nous aurons des lecteurs qui liront des poètes. Nous avons cet automne préparé trois éditions dans la collection Oval. La collection Oval est dédiée, comme vous le savez, aux classiques de notre poésie. Et hasard des choses, pour les 40 ans du Norrois, trois livres donc de Rina Lanier, de Michel Beaulieu et de Paul-Chanel Malenfant voient le jour. Alors nous avons pensé inviter les signataires des présentations pour vous donner à lire ces poèmes. Alors commençons avec Rina Lanier. Il y a plusieurs années de cela même, je dirais, au tout début, quand nous avons repris les éditions du Norrois en 91, nous voulions absolument faire une édition de l'œuvre de Rina Lanier. Et après toutes ces années de recherche, Jocelyne Felks a accepté généreusement de faire un choix dans son œuvre, un choix très substantiel, et dans une présentation également très éclairante quant au destin de l'œuvre de Lanier. Jocelyne, vous la connaissez, elle a été critique de poésie à lettres québécoises durant plus de 10 ans. Elle est l'auteur de plusieurs livres aux éditions du Norrois, dont un choix de poèmes de Néligan. Elle a reçu le prix Émile Néligan, d'ailleurs, pour l'un de ses livres. J'oublie le titre, Jocelyne, tu m'excuseras. Et un livre paraîtra l'an prochain aux éditions du Norrois. Donc, Jocelyne vient vous présenter et lire quelques poèmes de Rina Lanier.
Ça va, merci. Bon. Il est des poètes qui doivent leur audience à la coïncidence de leur thème et du climat de leur époque. Le cas de Rina Lanier est presque exactement l'inverse. Son œuvre, monumentale, qui se refusait à toute concession, puisait ses thèmes au plus profond d'une réalité substantielle que ne reconnaissait plus son époque. Exigeante, cette œuvre appartient à la poésie chrétienne. Au départ conventionnelle, sa poésie, curieuse des pouvoirs du langage, devient au fil du temps conceptuelle et métaphysique. La vie intérieure de Rina Lanier, sans discréditer la réalité, est connectée à l'invisible et orientée vers la connaissance personnelle de Dieu. Dans le beau quatrain, intitulée « Dieu invisible », extrait des quatrains quotidiens, elle dit « Terre, ton potier est un astre fuyant. Ton polisseur est toujours la main du vent. Moi, quelqu'un me creuse de la boue à l'étoile. Suis pierre et puits de paroles aveugles. » J'aime l'idée du Saint-Esprit dans l'encrier, écrivait dans une lettre James Joyce, Irlandais issu d'une vieille famille catholique et qui a perdu la foi en cours de route. Pour Rina Lanier, dont la poésie vit du côté sacré du réel, le souffle de l'esprit présidant à l'acte créateur dépasse le jeu de mots. Dans son œuvre, Dieu et l'écriture ne sont qu'une même attente. Le Saint-Esprit vit bel et bien dans l'encrier. Rina Lanier est née le 6 août 1910 à Saint-Grégoire, à proximité de la rivière Richelieu. Territoire agricole, ce coin de campagne, plein d'un murmure de feuillage et d'eau vive, s'étend à l'ombre du mont Saint-Grégoire, qui fait partie des monts Térygiennes. J'ajouterai que la pomiculture et la sériculture y sont des industries florissantes. Des poèmes de Rina Lanier, savants ou naïfs, travaillés, ciselés ou parfaitement dépouillés, nus, humbles ou resplendissants de tous les ornements de la rhétorique la plus brillante, évoquent la rivière, la montagne, l'érable, la sève, le pommier, la ruche, l'abeille. Dans la salle des rêves, le poème « Petite ville » nous renvoie à ces agglomérations de provinces traversées par une rivière et dominées par un clocher. Petite ville, où le silence serait un livre ouvert et l'ombre de l'arbre un signet de songerie, où les oiseaux forestiers voleraient moins haut à cause de la marée des ormes offusquant les toits. Petite ville où la rivière garderait comme une reine le droit de traverser les terres d'un règne lent. Le soleil ne serait pas plus grand que le cœur à vivre, ni la mort plus grande que le trépassé du verpré, quand dans le ciel, le clocher met un doigt de paix. Rina Lanier a pris conscience de la profonde déchirure de l'homme moderne. Née début 20e et décédée à la toute fin du siècle, en 1997, elle fut témoin, entre autres, de deux guerres mondiales, de la crise de 1929, de l'Holocauste, de l'édification du communisme et de la fin de la domination de l'Église catholique. L'œuvre, son œuvre, traverse le XXe siècle, d'abord en accord avec la sensibilité catholique et son renouveau religieux, puis influencée par l'esthétique moderne. Cette œuvre est structurée par deux époques, celle qui précède la Révolution tranquille et la période que celle-ci va engendrer et que préfigurent des intellectuels et des écrivains européens et canadiens-français des années 50. Année d'apprentissage, comme le qualifiait Gérard Pelletier, un des fondateurs de la revue Cité Libre. Cela dit, la pensée si peu orthodoxe du paléontologue et philosophe Teilhard de Chardin n'est pas étrangère à ce chef-d'œuvre qu'est le poème La Malemère. De Images et prose, paru en 1941, à Chants perdus, paru en 1983, en passant par Escale, L'Arbre blanc, La salle des rêves, Les signes, Palier de parole, Rina Lanier assure la transmission des origines catholiques du peuple fondateur du Québec dans un style de plus en plus éclaté et anti-académique. Comme Michel-Ange, comme Bach et Handel, comme Ozias le Duc, Mahalia Jackson et Olivier Messiaen, étonnamment, elle nous fait la preuve que la foi ne nuit pas à l'art véritable et au déploiement de la vie. Et certainement, telle Emily Dickinson, s'apparente à certains égards, Rina Lanier atteint le registre des grandes voix, portée par la puissance d'une âme sans détour. Ces deux poètes ont en commun un plaidoyer pour le regard de la nuit et une familiarité avec la nature et avec la mort. Au sujet de la nuit, Emily Dickinson écrit en 1862 dans son poème 484 « Si je fermais les yeux, tâtonnant tout aussi bien, je voyais mieux aveugle. » Le poème « Trop de regards » de Rina Lanier, qu'on peut lire dans « Matin d'oiseau » paru en 1978, nous le dit aussi. Trop de regards aux yeux, trop de reluis, dissuade. Plein amour et plein soleil sont hors oculaire de cécité. Avers épais des paupières, songe de lui dépeuplé de regards, balise la mante de vision, inverse en elle l'inépuisable. Elle répète ici ce qu'elle avait déjà dit en 1950 dans un poème d'Escale, où elle plaçait aussi la quête amoureuse sous le signe de la nuit, alors que les astres, éloignés les uns des autres, éclairent sans distraire. nocturne. Nous cherchions des liens plus purs et plus tendres que ceux des sources avec la mer et les lèvres. Nous cherchions des feux plus vifs et plus entrecroisés que le glaive des aubes et des regards. Nous cherchions notre amour dans la gloire du jour et nous avons touché la nuit des astres séparés. Nous savons que Dieu est mort au siècle dernier. Or, Emily Dickinson et Rina Lani l'ont cherché à travers le silence et l'absence de sa présence, suscitant sa parole au lieu de la recevoir paisiblement dans ses églises. Nous, nous ne vivons plus que dans la relativité des choses. Emily Dickinson écrit dans son poème 488 que l'absolu exclut le relatif. Rina Lani le dit aussi dans le poème intitulé « Le centre ». Elles le disent au nom de l'amour qui est indissociable pour toutes les deux de la perte. J'ai perdu les ceintures changeantes des horizons, la mue des hivers, le décompte des moissons. J'ai perdu la terre chaude et ses couvées, la babel des nuages et ses échos levés. J'ai perdu l'ornement qui trompe le visage, le déroulement des gestes parés comme des présages. J'ai perdu tout le cercle à courir vers le centre. J'ai quitté le jeu pour comprendre ton silence. J'ai oublié la toupie chantante de mes jours pour ce point immobile et seul de l'amour. Pour conclure, je dirais que tradition et modernité, ce double aspect que l'on constate dans son œuvre et qui lui fut dans son inspiration, pardon, et qui lui fut imposé par le lieu et l'époque, est peut-être la marque dominante du génie poétique de Rina Lani. Cette œuvre a ses versants abrupts, où des images saisissantes nous éblouissent et accentuent l'obscur, mais elle a aussi ses versants tempérés, à la lumière plus sereine.
Merci Jocelyne de cette lecture approfondie, si on peut dire, en si peu de temps. Maintenant, l'œuvre de Michel Beaulieu s'impose à nous comme une présence fraternelle rompue à la loi du temps désormais. Michel aurait fêté ses 70 ans, cette année, le 31 octobre. Ça nous a semblé un bon moment pour remettre à l'ordre de lecture cette poésie toujours aussi prégnante, presque 30 ans après sa mort. Et pour ce faire, nous avons demandé à une autre génération, en quelque sorte, de réfléchir ou de se commettre, ni plus ni moins, sur cette poésie. Nous avons demandé à Denise Brassard d'en rédiger la présentation. Denise est essayiste et poète. Elle enseigne à l'Université du Québec à Montréal. Elle a publié l'an dernier un livre fort qui met en dialogue l'essai et le poème, intitulé « L'épreuve de la distance ».
Alors, je ne vous lirai pas d'extrait de la préface que j'ai rédigée. Je vous laisse le soin de la lire vous-même. Même l'œuvre de Michel Beaulieu est constamment à redécouvrir, mais l'auteur n'a pas vraiment besoin de présentation au sens où c'est un écrivain phare qui a influencé non seulement les écrivains de sa génération, mais les écrivains des générations subséquentes. C'est donc une œuvre phare et l'un des intérêts de ce livre est de reprendre intégralement l'ensemble des recueils qui ont été publiés de son vivant aux éditions du Norrois. Donc, ce n'est pas une anthologie, ce sont vraiment les œuvres intégrales intégrale, ce qui, à mon avis, ajoute à l'intérêt de cette réédition qui était tout à fait nécessaire. Donc, c'est une œuvre qu'on ne cesse de lire et de redécouvrir. On entre véritablement chez Michel Beaulieu comme on entre en amitié. C'est une poésie qui, de prime abord, semble très simple puisqu'elle s'attache au concret, au réel, à l'immédiat, mais elle s'avère au fil des lectures d'une extrême complexité. D'ailleurs, il y a des travaux récents de jeunes critiques, de gens qui ont à cœur de relire le corpus littéraire et poétique, notamment québécois, qui sont extrêmement intéressants, qui ont en fait été diffusés par des institutions récemment. Je pense entre autres à la thèse de Frédéric Rondeau et à celle de Évelyne Gagnon. Donc, Michel Beaulieu, c'est aussi un électron libre dans l'histoire de la poésie québécoise. Comme Saint-Denis Garneau, ce n'est pas pour rien qu'on a mis si longtemps à relire cette œuvre-là. Je pense que c'est un auteur qui vaut la peine d'être redécouvert. On pensait aussi à Jacques Brault, qui est aussi un électron libre. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi touché à plusieurs esthétiques, hein, qui a touché au formalisme pour en venir à quelque chose qui était finalement très dépouillé, très singulier et qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait à la fois une connaissance très poussée de la poésie contemporaine et une exigence absolument radicale quant à sa propre démarche. Donc, je vous lis un extrait de chacun des livres qui a été repris dans le livre qui vient de paraître. Donc d'abord un extrait de FM Lettres des saisons 3 qui est paru en 1975. Aime-moi pour le jour s'il frémit dans ses branches, pour l'ombre qui coud ses ombres sur la nuit, avec le ventre ouvert dans ses écluses, les fluides et tes doigts sur ma langue. Aime-moi de ton corps enroulé en cerceau. Je te dirai le sens du temps avec les mains. Comment naissent les odeurs du fond de la nuit? Ne t'apprendrai rien d'autre que tout est rien. Même si le temps passé ne recule guère dans ses replis, je ne saurais t'aimer qu'au mi-temps de la nuit. La passion de te rejoindre me tenaille les épaules et je n'ai plus de mémoire qu'en tes yeux. Plus de mémoire qu'au fond de tes yeux. Mourir en tes bras pour en être au matin, étonné de l'œil toujours présent de la chambre. N'apprendrai de toi rien d'autre que tout et rien. Malgré les heures qui se rétrécissent, aime-moi de tes lèvres, de leur sang, de l'espace de tes jambes et de ton ventre, si je m'envoûte en toi du plus mûr de mes nerfs. Un extrait d'anecdote maintenant paru en 77. Si tant est que le métier de vivre te pèse, n'en oublie pas le geste révélateur, ainsi qu'une vieille photographie racornie. Dans quelques coins de la mémoire, elle tisse autour de toi le fil des allusions, le fil des illusions, des émotions. Mais si ce geste attendri s'impose à toi, dans ses appâts, n'en rejette au loin ni la rage, ni la fureur, ni n'en détourne la ferveur de ses cours sinueux. Prends-le sur toi, dans ses odeurs de pommes de pin, dans la fragrance de l'automne et des quatre saisons, parcouru d'un museau fin dans les signes du temps. Promenade maintenant, un poème tiré d'Oracle des ombres, paru en 79. Quand tu scindras les calices de l'angoisse, l'étreinte pétrifiée de quelque froid persistant, la tête entre les mains, la jugulaire offerte au couteau, luiras-tu de cette fauve sensation que la vie morcelle ses dernières avenues? Chacun tire à la courte paille, qui de l'ennui, qui de l'éclisse nous engloutira de ses pâles pitiés, ses amertumes. Les os broyés, je me promène avec cette légère claudication de ceux qui errent fatigués. Cette cadence feutrée qui nous emporte un peu plus loin, chaque jour davantage. Et davantage, parmi les fractures, je vais, je m'en vais, avec dans l'âme des cernes pelées, rameuter les ombres sombres, pour peu qu'elles saupoudrent d'ocre la peau du silence. Épuisera-t-elle donc la patience, la ramoneuse des lendemains, la laine filée jusqu'aux paupières? Les mots sarclés, les remontera-t-elle pour qu'ils sonnent dans le matin quelques semblants de rémission? Tout ce temps, cette interrogation, cet équivoque entretenu, quand tout le temps la dément, la nuit filtre ses cigarettes. Demain viendra les éteindre avec un soupçon d'aube dans les fenêtres et nous étreignant d'un dernier doute où graillonne autour de l'estomac ce vertige pour peu que l'on prenne garde à ce qui s'accomplit dans les fibres. J'abîme la vie en écarissant ses coins. Quelque part, un feu vert pétrifie le silence. On ne naît à soi-même qu'au flanc de la nuit. Quand les profils se font flous dans l'air ambiant, chacun s'en va dans son immobilité de brique. Et ce qui bat encore, bat au ralenti. Le corps en attente d'un corps fraternel, avide à ressentir la moindre pénétration. Qui va là, perdu dans son immensité, le ventre gras d'avoir tant toléré, quand d'autres n'arrivent plus à les couvrir, leurs os qui grincent dans l'heure indéterminée? Je suis là, je vague à mes affaires, et maintenant, c'est de remonter vers les combles. Demain me surprendra dans les calorifères. Peut-être qu'après-demain, je m'épanouirai dans le centre exaspéré de tes entrailles. Jadis c'était naguère, et c'est n'importe quand que dans tes yeux je renonce à la mémoire, en dénombrant ces réseaux de calomnies, même si elles servent à définir cet instant. Voici ce peu d'eau pour tes gencives meurtries, cette odeur de muscade qui peuple ta bouche, mais la vie ne nous destine pas à naître, pas plus que la nuit n'égorge ses enfants. Un extrait de Visage, maintenant paru en 81. Tu reviendras demain dans l'intensité de chaque pulsation. Tu reviendras après-demain peut-être, et peut-être l'an prochain. Il y a eu si longtemps ce sentiment d'inhabitable, l'âme prise à l'armure des forêts d'asphalte et de béton. Un soleil atlantique fond sur ta peau, que je goûte en léchant les rayons, l'arc-en-ciel qu'ils font dans ton nombril. Un matin, je ne me suis pas réveillée sur le même pied. Je descendais par les rues giboyeuses. Rien, jamais, ne me dérangerait-il donc en cet obscur renoncement où tu ne m'attendais pas, ni moi, toi? Pourtant, les huîtres ne sont pas comestibles à ce point nommé de l'année, même si le couteau les pique au coin de la rupture. Mais toi, je le sais que toi, tu reviendras hanté demain, après-demain ou l'an prochain. Je t'appelle, mon immortel amour, et ne prétends pas à la poésie, aujourd'hui, en balbutiant sur tes lèvres ce nom que tu portes si bien, dans sa violence déferlante, mais à la vie. Et pour terminer, le tout dernier poème de Kaléidoscope ou les Aéléas du corps grave qui est paru en 84. Congé. Libre à toi de propager ailleurs, dis-tu, les fluides, les photons, dont ton visage, à la lueur floue du regard où tu t'appuies, s'emballe et saute de l'œil de l'un à l'autre. Point, mur, fenêtre, table de chevet vide. Je ne veux pas de départs interminables. S'il faut que tu t'en ailles, pars. Qu'à ton gré le temps te ramène. S'il faut qu'il te ramène, tu reviendras. Que vas-tu chercher là ? S'inquiète le personnage. Tu attends que j'aie terminé mon numéro ? Tu rentres chez toi dormir ? Quand, arrachée de la vision vide, la foule s'éparpille, à pied, dans ses automobiles, de l'autre côté de l'épaisseur des murs, tu entreprends le compte à rebours des ans qu'il te reste à vivre. Le rêve, tu n'en retiens au matin que des bribes. Tu t'enfonces dans ta journée, l'espoir aidant qu'elle aboutisse au plus vite. Je ne justifie rien. Je ne t'apporte pas la jouissance immédiate que tu appelles, la charte des droits de ta personne, tout devoir exclu contre toi. Les mots, dont tu ne cesses pas de te nourrir avec avidité, je les retourne, qu'ils fracassent tes illusions, tes certitudes. Et tu dis qu'il s'agit là d'un jeu. Merci.
Merci Denise, merci de donner cette vie à la poésie par vos deux voix. Maintenant, j'avais demandé à Louise Dupré, mais elle ne pouvait être présente avec nous ce soir, pour des raisons personnelles. Donc Louise, on le sait, a publié l'automne 2010 un livre très remarqué par sa maturité, Plus haut que les flammes, qu'on n'a pas manqué de remarquer, étant lauréate du prix Québecor. Elle a été finaliste également au prix Estuaire, au prix du gouverneur général et au prix de la ville de Montréal. Nous avions demandé à Louise de faire un choix dans l'œuvre de Paul Chanel Malenfant. Paul Chanel Malenfant, discrète, cette œuvre discrète, assurément éloignée des centres urbains que sont Montréal et Québec, n'en a pas moins tenu régulièrement chronique de ses états de lieu. Œuvre entamée dans les années 70 et qui se poursuit, alors que nous proposerons à nos lecteurs l'an prochain un nouvel ouvrage s'intitulant « La petite mariée de Chagall », dont on peut lire des extraits dans ce choix de poèmes de Louise Dupré qui s'intitule « Traces de l'éphémère ». Alors, les lecteurs ne manqueront pas de découvrir ici une œuvre riche, complexe, toujours disponible à la lecture et ponctuée par une saga familiale qui rythme le système des images entre le fleuve et les grands-pères, l'espace du corps, dans l'envoûtement pour le mystère de la mer, les filiations vers l'autonomie du langage, on ressent la quête du poète. Après le pays aveuglé, la parole désirante dévore sa faim et se consume sous nos yeux comme une élévation par la beauté. L'œuvre de Paul Chanel Malenfant s'impose ainsi depuis 30 ans comme tout à fait unique. Louise Dupré écrit dans la préface très éclairante de ce parcours: il s'agit, à n'en pas douter, d'une œuvre au sens fort du terme, édifiée pierre à pierre, qui montre une grande unité. Les livres forment un tout où chacune des parties est étroitement liée aux autres. Des figures emblématiques reviennent, la mère, le père, les frères et sœurs, l'ami malade, etc. On découvre ici une écriture de la précision, du ciselage patient, où le détail sans cesse interrogé tente d'élever un rempart contre l'oubli. Je vais vous lire quelques extraits d'un livre qui avait fait sa marque en quelque sorte, puisqu'il avait obtenu le prix du gouverneur général et le prix de le prix du gouverneur général et le prix du Festival de poésie de Trois-Rivières, le prix Québécois qu'on appelle maintenant. Bon. Alors, je vais vous lire des extraits de Fleuve. Rive. Une bouche s'ouvre sur la beauté de la terre. Tu retrouves les racines d'ancêtres, les visages nus appuyés au volet des voyages, des souvenirs de girafes et de faucons dessinés dans les livres. Les murs sont abolis. Seuls les vivants viennent regarder la mer pour le passage de la lumière. Tu assistes, Fleuve, à la récitation des ambres, à la profusion des matières premières, les pierres surtout, en leur insondable fixité. Tu es cette lente trajectoire des eaux, de toutes les naissances rassemblées pour la déroute, pour un destin ou pour l'éternité. À l'origine, il eût fallu vider la mer à l'aide du dé à coudre de la mer, tandis que de grandes charges de linge bleu venaient battre les vitres dans un désordre d'odeurs. Ainsi fut apprise la danse, répétition des rythmes. Vint un jour ce goût de l'encre au bout du doigt, mine du crayon, papier mâché, et dans la bouche la diction savoureuse de l'alphabet d'amidon. Langage sans germe. Les mots ne nomment plus les choses par leur stricte forme désignée. Tu murmures paraffine, locomotive, chicorée, trou de mémoire. Au tableau d'ardoise, le père dessine le triangle isocèle. Le père, à la craie de couleur, donne une idée du Dieu en trois personnes, partout sous l'abat-jour et dans le chat des aiguilles. Lettres, hochets sonores. Apparaissent de longues villes de pluie, monde moderne, écroulement d'opéra. Viennent à grands traits de Tarquinia, les chevaux blonds parmi les blés d'Homère. Point fixe de la prose, le Nord appelle. Car ce pays n'est pas un pays chaud, n'est pas un vieux pays. La neige l'ensommeille. Les fleuves perdent toutes les langues de Somalie en Gaspésie. Pardon, les mots parlent toutes les langues de Somalie en Gaspésie. La ligne d'horizon est la plus seule de la terre. Entends le souffle, entends la voix de violoncelle qui sourd entre les algues et les éclats d'obus. Traits tirés des guerres, soldats de plomb, les grandes lèvres du fleuve parlent de langue maternelle. Voix. Entre les fleuves, les voix et les mains portent dans la nuit une théière de grès, désert, terre de Sienne et de Caen. La robe est sans couture, les traits du visage s'effacent par l'ombre, le bracelet enroulé sur les os fait un léger bruit de fer blanc. Sur les photographies, les corps n'ont plus d'odeur. La douleur sur les images est indicible parmi les fétus de paille et les cordes tressées, qui donnent ainsi la mort à voir toutes les pensées figées dans l'accablement des gestes lents quand les yeux crèvent le glacide du papier. Aujourd'hui, la terre n'a plus droit de parole, les âmes mêmes se taisent. Soit une abstraction de corps creusée de lumière entre des barreaux, des enfants rêvent de saints, ils éteignent somnolence et famine, les mouches qui crépitent entre leurs genoux, l'idée fixe des dents. Nulle mémoire de claire fontaine ou d'oseille fraîche mêlée à la salive. L'un cache son visage comme pour boire entre ses mains. Vide, l'autre crie dans le désert. Faut-il, fleuve, faire taire le poème, le rendre à la lenteur de l'encre, quand les lèvres sont scellées sur la soif? Où donc a fui la grande voix flottante au-dessus des eaux? Merci pour Paul Chanel et pour Louise Dupré qui en a fait le choix. Et maintenant, nous passons à des œuvres tout à fait récentes et immédiates, si j'ose dire, dans la production courante de l'automne. Monique Delan publie un nouvel opuscule très substantiel de son aventure, j'allais dire d'une aventure dans la douleur, si cela n'était pas réducteur, alors qu'elle vise et aspire à tant de lumière. Dès lors, la poète est à l'intérieur du monde, autant la vigie que l'éclaireur des sentiers obscurs. Elle a reçu le prix Alain Grandbois en 2009 pour son avant-dernier titre, Miniature, Balles perdues et autres révoltes. Elle poursuit son trajet, donc, en nous proposant géologie des corps surpeuplés. Ce n'est pas seulement le récit d'une affaire individuelle qu'on lira ici, ni une affaire de corps démultipliée par les expériences, mais aussi bien le constat d'une adhésion sans compromis à l'ensemble du genre humain qui partage immanquablement le même et unique désir du cœur. Elle écrit « Quand l'erreur colle au cartilage, répète jusqu'à l'os ses fêlures intimes, il ne reste plus qu'à se marcher sur la tête. »
Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais donc vous lire un petit extrait de ce dernier livre, Géologie des corps surpeuplés. Et la section que je vais vous lire, c'est une section qui comprend 7 ou 8 poèmes et qui s'intitule Phagocytose. Et comme phagocytose, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire. Et puis, ça dit que la phagocytose, c'est un mécanisme biologique par lequel les cellules vivantes mangent et digèrent des particules étrangères et les transforment évidemment en autre chose. Alors voilà pour la petite introduction. C'est sur le cap d'un amas qu'elle tient ferme. Les épaules projetées sous la nuque. On ne voit ni visage ni tête, mais un dessin dans le dos. Vénure, liane ou chevelure, volute peut-être qui s'affine, et ça descend, courir sur les bras. Ruisseaux en flaques d'huile, ronds de matière organique, décomposition, sans doute, du marécage. Rien n'est sûr que la noyade. Aussi, les jambes, comme un refrain, avalées, englouties jusqu'aux cuisses, dans la fange d'un tronc effilé, effiloché, léché, sculpté par les odeurs, encore de femmes, manie machinale des ramures raidies qui en font un deuxième, pareil au sien, avec la tête qui y retourne. Prison à vie pour les images rotatives. L'enfoncé des lombaires est inouï. Sous les yeux ronds des hiboux ou pointus des chats et leurs oreilles. Tout est tassé, tout tient debout sur des perchoirs. Et qui ploie dans l'air, à côté, perche molle, un poisson mâle qui l'avalerait deux fois, facile. Versé couché sur elle, antenne pliable au bec, avec 1000 paires de lèvres collectionnées sur les écailles. Trophée magnétique, bouche butin, de toute forme, tout format, et ça ne finit pas. D'ailleurs là, ce guépard, habillé de plumes, tout ce qu'on mange nous sculpte. 5 griffes courbes s'allongent sur les grenouilles tristes, restes de jaunasse métabolisées. Les cellules en boule se refont une vérité morphologique et personne n'a peur de regarder. Dans les ferrures de portes, des armoiries d'oiseaux piégés qu'elle reconnaît, une map-monde sur laquelle buter. C'est du métal, mais feuillage de poisson. Ça aurait pu être n'importe quoi à partir de n'importe qui. La tour penche, totem de vertèbres. Chacune a deux petits bras, plus un trou noir pour la tête, une cachette pour aimer. Au bout des antennes, les papillons portent une boule de billard et la trompe suce le suc des briques, miel durci au pays des Incas, boîte crânienne siphonnée, momie naturelle, poupée russe sur la grande muraille de Chine. D'anciens visages à l'index sautent sur l'occasion, crête de coq au-dessus d'un œil unique. Certains ne voient jamais rien. Sa tête court, pitoyable. Les clôtures s'ouvrent d'un coup, mosaïque et masque de proverbe. Le bec hardi et le cou fort, on n'y peut rien, une forme de main ou queue de pique en éventail montée sur ses pointes. Il l'emmène faire un tour, valser noirci entre les nœuds de l'eau. L'heure avance et sa écume, l'écume croasse. C'est la jungle jusqu'aux cuisses, le rodéo rouge dans la gueule, et toujours, sans aucune pièce, à conviction. Who the hell is that? Poussières et pluies, l'échelle de brindilles se défend sur une seule jambe. Une actrice, ça se voit. Rire de perles sur épave de bateau. Le drapeau, le vent arrache ses lambeaux. Mais les lèvres tressent un champ immense. Le mât l'enfonce, l'armature nue de la cale dans le sable, neige. Rien ne s'enfuit, on dirait des côtes cassées, dans un champ immense. Secousse tempête, le squelette est si long à se dégrader. Le sang gris, la mousse, les fruits et cailloux en volée de plomb, gésier ouvert sous le duvet, tous ces miettes. Et fait des gouttes, lignes de feu dans le cosmos. Au bout des doigts, les glandes se ruent, ça pleure, des yeux dessinés sortent du tunnel, et on verra bien le ciel, le bleu mangé du ciel, éclore dans une bouteille. Tête voyage. La chambre. Le paysage plantera des plumes, toutes les couleurs de plumes, aussi des blanches autour des charpentes humaines. Flammes de menhir tricotées au faux fil, l'aplomb revenu d'exil. Réabsorption des membres fantômes, poumons durs et bonbons arc-en-ciel. La terre, ses crédulités et renversements. Elle entre, avec tout le peuple à l'air, sous la chemise de nuit, pour bavarder en marge des scènes de froid. Merci beaucoup. Merci.
Merci Monique. Maintenant, Corinne Larochelle nous revient avec un quatrième titre publié aux éditions du Noroi. Titre original s'il en est, « Femme avec caméra est le fruit d'une plongée dans l'œuvre et la vie de la photographe américaine Diane Arbus. » La poète, ici, ne s'est pas contentée de documenter son travail, elle l'a pris à bras-le-corps pour y entrer de plein pied. Si bien que sa marche dans les pas de l'œuvre, la vie et la ville deviennent siens. Comme si sa propre vie dialoguait avec la photographie, dépassant ainsi l'anecdote documentaire ou le commentaire pour vivre dans le poème. La poésie réaffirme ainsi ses affinités profondes avec la photographie, puisque les deux formes d'art reposent sur ce désir d'une captation immédiate du réel et le dessein d'en communiquer la part invisible. Comme le dit Diane Arbus, « A photograph is a secret about a secret. The more it tells you, the less you know. » Ici, la poésie scrute la beauté cachée des choses sans en gommer la part d'étrangeté. Corinne?
Merci, Paul. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus à cette présentation? Simplement, j'ai emprunté les yeux de cette photographe qui m'habite depuis longtemps et j'ai tenté de mettre en mots ces images extrêmement troubles. Je vais vous lire donc quelques extraits de « Chasse aux papillons ». À l'aube, j'enfile son rituel quotidien, des bouteilles vides à ramasser. Un landau rempli de verre descend la 3e avenue. Un homme noble me parle étymologie, collectionne les morceaux de miroirs brisés. Il rêve de Sophia Loren en mangeant des cerises au marasquin. Lui et moi partageons un ancêtre, l'arête du nez, l'horizon reçu tôt, nervure saillante. La vie est magnifique. Merci, Monsieur Mac. Elle voit tout. L'étrangeté, une femme avec un chapeau trop grand pour elle, un homme seul, la douleur de vivre à la pointe de l'os. Depuis l'enfance, armée pour collectionner les papillons les plus rares. La mosaïque des piétons lui redonne un pouls qu'elle apprend à fredonner. En route pour l'équilibrage final, le plus beau spécimen tatoué sur le cœur. Si je ne suis pas saisie par l'espace, je ne sais pas aider. À chaque trottoir, c'est distraction. Les uns s'endorment, les autres perdent les yeux de leur ivresse. Tous clochards autant que nous sommes, nous avançons sans paupières au drugstore du coin. Espoir, une communion à la fin de chaque journée, un baiser qui luirait sur l'écran d'un drive-in. Je retourne brûler des croix avec mon appareil. L'espace se défait avec des dents empruntées aux cadavres. Au soleil de midi, n'ayant d'autre proie sous la main, j'ouvre la ville. Artémis téméraire, j'attache bien l'odeur à ma ceinture. Je voyage jusqu'au bout de la fatigue des ongles. Triturée par les chairs qui gisent, m'imagine un lit de carton. Un œil à côté de l'autre, moi collé au charnier. Fleur dépourvue de circonstances, elle va partout, se nourrir aux ombres ventriloques. Le corps flâne, détaché de la couleur. Quelle silhouette s'accentue? Quelle femme avec un masque d'oiseau? Quelle danseuse topless dans sa loge? Quel mari et quelle épouse dans les bois? Quelle blonde avec du rouge à lèvres brillant? Quelle tache propage ses formes? Personne ne veut être photographié. Du quadrilatère, elle rentre blessée, la main bredouille, s'écoule. Un jour ou l'autre, une gare arrive et nous défigure. Nous voilà avec trois nez, une cicatrice au milieu du front, une bouche ouverte sur l'obscurité. La peau infirme, nous avançons sur un fil invisible. Nous savons que là, coincé dans cette fermeture éclair, loge un cri effroyablement monstrueux. Farceurs dans leur costume d'Halloween, ils invitent à d'étranges plongées. Ces papillons que j'épingle font vaciller. Comme s'il y avait toujours d'un côté le ciel noir, de l'autre le sable blanc et un œil au milieu à résoudre. Apprendre à être perpendiculaire, la tête dévissée. authentique fenêtre ou capter ce qui n'a pas été vu. Grenade laissée en plan, soupir à empoigner. Le portrait glisse, je prends ce qu'on me donne, sinon je dérobe. Cette fois, je compense l'absence de lumière par une embardée dans le vertige. Mes cellules changent. Je cherche un héros dans les yeux de sa veuve. D'aussi grands arbres ne peuvent disparaître que si le bord de la vie se détache. La femme de Martin Luther King s'éloigne, des cendres grises cachées sous les iris. Le monde sonne creux après, les rues vidées de leurs chiens, les terrains vagues bosselés de chardons. Sans provision, sans lueur, il m'arrive de ne rien connaître. Et un poème de Chambre. Source de pensée, source de vie. Chaque jour, je retourne à l'obscurité avec mes mains disjointes, y dérober un peu de feu. C'est dans l'obscurité d'une chambre d'hôtel que je l'ai vue, nue, drapée dans sa serviette. Son chapeau rendait plus cru sa difformité. Sa moustache dessinait un large sourire, tandis que son œil gauche exposait des jardins intérieurs. Toute une nuit, meurtrissure pourpre, il m'a montré comment pétrir un nain. Merci.
Merci à vous tous d'être là, dans la caverne en quelque sorte, entre nous. Mais la diffusion donc sur Radio Spirale permettra à plus d'auditeurs sans doute d'entendre cette belle lecture et cette belle, ce bel horizon de la poésie actuelle. Maintenant, pour vous-même, je vous invite tous autant que vous êtes le 25 novembre à notre soirée de clôture des 40 ans des éditions du Norrois, alors que nous aurons des lectures d'inédits d'une trentaine de poètes, j'imagine, 30, entre 30 et 35, et qui liront leurs inédits, un poème par poète. Et ce sera suivi d'une soirée, comme nous espérons, la plus festive possible et qui durera le plus longtemps possible. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et merci encore d'être là et à la librairie Olivieri de nous accueillir si généreusement depuis tant d'années. Merci.